Bonjour à tous et merci d'être avec nous. L'info locale et régionale sur Calade. Au sommaire de notre édition. La fin de la trêve hivernale a été reportée de 2 mois. Elle prendra donc fin le 31 mai 2020. L'occasion de joindre Julien Mailleux, responsable de service pour l'association LEMA, qui gère 2 structures d'hébergement à Villefranche et une autre à Belleville, dans le cadre des dispositifs de renfort hivernaux. Le point par téléphone avec celui-ci. Puis, la Fédération de la distribution automatique NAFSA, installée dans les entreprises dans les lieux publics ou ouverts au public, notamment les établissements de santé, appelle les autorités publiques à prendre en compte les demandes d'activités partielles dont certaines sont encore refusées par les directs, Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Les explications et joint par téléphone avec le président de la Fédération nationale des ventes et services automatiques, NAFSA, Pierre Albrieux. Calade, le journal. Logements surpeuplés ou insalubres, familles fragiles et dépendantes des associations et services sociaux désormais fermés. Le confinement démultiplie les difficultés pour les mal logés. Les associations tentent de s'organiser. Le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre sur le mal logement publié en janvier 2020 fait état de près de 4 millions de personnes mal logées, parmi lesquelles les sans-abri, les gens du voyage, les résidents de foyers de travailleurs migrants, mais aussi 25 000 personnes dont la résidence principale est une chambre d'hôtel, plus de 600 000 personnes en hébergement contraint chez un tiers, plus de 900 000 personnes vivant dans des conditions de surpeuplement accentué du logement. Le tableau contraste fortement avec celui des 13% de Français heureux propriétaires d'une résidence secondaire, dans la majorité des cas situés sur la côte ou dans le sud de la France, qu'ils ont éventuellement pu rejoindre afin d'adoucir leur confinement. Être confiné dans un logement surpeuplé et ou dégradé rend plus vulnérable au virus. Or, sans surprise, les habitants de logements insalubres et de quartiers populaires sont en moins bonne santé. Les rues, pleine de travailleurs migrants précaires n'ayant pas la possibilité de s'arrêter, livreurs, vigiles, caissières et femmes de ménage. Dans les quartiers populaires, peu d'habitants font des métiers permettant le télétravail. Mais outre des problèmes liés au logement, c'est tout un cadre de vie, un accompagnement qui s'effondre quand tout le monde s'enferme. Dès le premier jour de confinement, ATD Quart-Monde dénonçait une double peine pour les plus pauvres, qui doivent déjà se battre pour survivre au quotidien. Article de Marie Astier pour Reporter. La fin de la trêve hivernale a été reportée de 2 mois. Elle prendra donc fin le 31 mai 2020. L'occasion de joindre Julien Mailleux, responsable de service pour l'association LEMA, qui gère 2 structures d'hébergement à Villefranche et une autre à Belleville, dans le cadre des dispositifs de renfort hivernaux. Le point par téléphone avec celui-ci.
Alors, sur le dispositif des renforts hivernaux, nous avons 2 dispositifs sur le nord du département. Le dispositif situé rue des Fayettes à Villefranche, où nous accueillons actuellement 25 personnes, qui est situé dans un ancien EHPAD. Et nous avons également à l'ancienne gendarmerie de Belleville. Nous accueillons 12 familles pour 70 personnes depuis le début de l'hiver.
Alors, une trêve hivernale allongée sur la période.
Alors, une trêve hivernale allongée. Alors, chaque année, nous travaillons avec l'État. Les fermetures sont quand même rarement sèches au 31 mars. Il y a toujours des périodes un petit peu de prolongation pendant le temps qu'on étudie, soit des réorientations des personnes les plus vulnérables, soit des pérennisations de places pour faire passer les familles ou les personnes dans des places pérennisées. Et cette année, le renfort a été pérennisé. L'annonce de la pérennisation avait été faite avant le confinement lié au Covid. Nous avions déjà eu cette information là. Enfin, ça avait déjà été décidé par les services de l'État en amont du confinement.
Donc, en fait, le Covid s'est rajouté ou pas ?
Le Covid s'est rajouté, alors pas tant pour la prolongation. La prolongation, on l'avait envisagée de toute manière sur le plan RH, voilà, assurer la continuité des contrats, voir que les personnes que nous embauchons pendant cette période courte puissent continuer sur le printemps, de continuer nos approvisionnements, voilà, de maintenir nos chaînes de soutien aux personnes en place. Enfin, le Covid, surtout sur le confinement, où il faut qu'on puisse arriver à maintenir le lien avec les personnes, avec des présences réduites pour préserver nos équipes. C'est surtout là-dessus que ça joue.
Donc, c'est aussi d'assurer la protection des personnes, finalement.
Alors, d'assurer la protection des personnes que nous accueillons dans nos dispositifs. Donc là, bien sûr, c'est faire de la pédagogie autour des gestes barrières, d'informer sur les informations officielles liées au Covid, permettre aux personnes d'assurer leurs besoins premiers, qui est de toute manière la fonction du renfort hivernal, c'est-à-dire que les personnes puissent accéder à suffisamment d'alimentation, dormir au chaud et dans des endroits pour dormir sécurisés. Donc ça, je pense qu'on y répond. Et puis après, on a essayé de maintenir l'accompagnement social pendant l'accès aux droits pendant cette période de confinement qui est un peu moins évidente. Et puis, il faut aussi qu'on s'occupe de nos équipes et d'arriver à les protéger aussi, de respecter les distanciations sociales, de fournir le matériel qu'il faut pour éviter la contamination.
Donc, est-ce que vous avez les outils nécessaires ?
Alors, on a fait le lien avec l'ARS. Notre directeur général a fait le lien avec l'ARS. Nous sommes en lien aussi avec les services de la cohésion sociale. Et on a eu accès à... Des quantités énormes, mais effectivement, on a eu accès à du gel hydroalcoolique, des gants, quelques masques aussi, que l'on fournira aux personnes qui seraient malades pour pouvoir se protéger.
Et pas de soucis au niveau effectivement de salariés, où il faudra penser peut-être à des personnes qui renforcent l'équipe ou pas ? Comment ça se passe ?
Pas de soucis actuellement. On essaye de s'organiser en cette période de confinement avec une présence minimale. Les équipes s'organisent pour tourner sur les sites, pour pas être présents tous en même temps sur le site, sauf en cas d'urgence, de répondre à la demande aussi des familles que nous hébergeons. C'est-à-dire que s'il y a un souci particulier, comme ce week-end, un problème d'électricité, eh ben, on essaye de faire en sorte de se rendre sur place pour remettre l'électricité. Il y a des questions autour de l'accès aux devoirs, là, il y avait des enfants qui étaient scolarisés, il faut qu'on puisse imprimer, donc qu'on leur imprime leurs devoirs. Donc on essaye de centraliser les demandes pour pouvoir les regrouper, ne faire qu'un seul aller-retour sur le site.
Et les demandes d'attestation également, de dérogation peut-être aussi, hein, pour aller faire des courses,
oui,
ce type de choses.
Oui, qu'on a fourni, qu'on a expliqué aussi à tout le monde, tout en faisant tourner les salariés pour... pour limiter les risques de contamination.
Donc, il y a aussi toute une éducation. Hein. Vous avez dit, effectivement, à des personnes qui, quelquefois, ne maîtrisent pas forcément la langue encore hein, dans les gens que vous accueillez. Hein. C'est bien ça ?
Oui, nous avons beaucoup de personnes que nous hébergeons sont des personnes qui ont un parcours migratoire. Ce ne pas des personnes qui sont primo-arrivantes sur le territoire français. Alors, on arrive à trouver des ressources, alors par des appels d'amis ou eux-mêmes ont des amis qui peuvent traduire par téléphone ou au sein même du centre d'hébergement quand on a besoin de se faire traduire. Ça n'a pas été une difficulté majeure là sur cet hiver, en tout cas la communication.
Comment se comportent ces personnes qui sont justement effectivement un peu fragilisées, sachant qu'elles vont, les 2 mois vont se passer et de nouveau dans la rue. Est-ce qu'elles vous ont fait part peut-être de leurs sentiments ou pas ?
Les personnes comprennent bien ce qui se passe, les personnes que nous hébergeons comprennent bien. Je pense qu'on a le même sentiment, enfin, je pense que vous et moi, voilà, un peu d'inquiétude, d'arriver aussi à respecter le confinement. Alors, sur Belleville, on est dans des appartements, c'est plutôt facile. Sur Mérard, on est sur du collectif, ça peut être compliqué, c'est là, peut-être ça qui est un petit peu compliqué à vivre. Il y a quand même des espaces qui sont partagés. Il y a un sentiment d'inquiétude, mais au même titre que tout le monde, je dirais.
Je ne sais pas si vous êtes concerné, mais l'ouverture de centres dédiés justement aux sans-abri vulnérables, est-ce qu'on vous a sollicité ou ce n'est pas du tout votre domaine ?
Ah, si, les centres d'hébergement sont notre domaine. Là, actuellement, nous sommes en lien avec les services de l'État. Alors, pas à mon niveau de responsable de service, c'est plutôt le directeur général hein, qui est sollicité. Et puis, à mon niveau, ça serait la mise en œuvre opérationnelle. Là, actuellement, on n'a pas été sollicité pour de nouvelles places d'ouverture d'urgence sur la CADAM. On maintient les dispositifs actuels.
Tout est plein ? J'allais dire, c'est souvent le cas. Difficile de faire de la place.
C'est plein. Ouais, puis on fait bien à chaque fois qu'il y a une place qui se libère. On fait le relais avec la maison de la veille sociale pour qui est l'organisme. Au service d'accueil et d'orientation qui nous fait les orientations des personnes.
En conclusion, voilà. Peut-être
rien de particulier. J'ai l'impression qu'à l'heure à laquelle je vous parle, c'est plutôt satisfaisant d'avoir des dispositifs dans lesquels nous hébergeons des personnes, je crois, dans une certaine qualité. Nous arrivons à répondre à leurs besoins premiers. J'espère que nous arrivons à les sécuriser. Voilà, on essaye de gérer comme on peut cette période de confinement et à l'heure actuelle, ça reste apaisé.
Avec nous, Julien Mailleux, responsable de service pour l'association LEMA, gérant de 2 structures d'hébergement à Villefranche et Belleville. Un entretien dans le cadre de la fin de la trêve hivernale reporté de 2 mois. La trêve hivernale débute le 1er novembre jusqu'au 31 mars. Elle concerne les locataires en difficulté, ne pouvant pas être expulsés de leur logement, sauf exception. Malgré ces 5 mois de répit, les expulsions locatives atteignent chaque année de nouveaux records. Cette année, la trêve hivernale prendra fin le 31 mai 2020. La Fédération de la distribution automatique NAFSA, installée dans les entreprises, dans les lieux publics ou ouverts au public, notamment les établissements de santé, appelle les autorités publiques à prendre en compte les demandes d'activité partielle dont certaines sont encore refusées par l'EDIRECT, Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Les explications sont jointes par téléphone avec le président de la Fédération nationale des ventes et services automatiques, NAFSA, Pierre Albrieux.
Oui, tout à fait, une baisse de 80 à 90% qui nous étonne. Dans les lieux publics, on peut le comprendre, il n'y a plus d'avions, il y a très peu de trains, il n'y a plus de trafic autoroutier sauf les chauffeurs routiers. Dans le secteur privé, nous sommes étonnés que beaucoup d'entreprises ont fait le choix de la sécurité de fermer leurs établissements ou de fermer les salles de pause et d'interdire l'accès aux machines à café pour des raisons de sécurité à la contamination.
Alors, ce n'est pas un étonnement peut-être, c'est qu'une question de sécurité de ses salariés.
Oui, jusqu'à un certain point, car notre activité a été, dans le décret modificatif, bien nommée comme une activité autorisée pour assurer la continuité du service alimentaire. Et surtout, si vous voulez, le fait que nous sommes quand même obligés de maintenir un service minimum pour assurer un service citoyen auprès des forces de l'ordre, des pompiers, des SAMU, des hôpitaux, des cliniques et des plateformes supermarchés alimentaires et transporteurs de l'alimentaire. Nous ne pouvons pas l'assurer parce qu'on nous interdit l'accès. Nous sommes prêts à l'assurer, hein, mais nous ne pouvons pas le faire. La problématique, si vous voulez, elle est très simple. Nous, 70% de notre business est en entreprise. Quand le gouvernement a décidé le confinement, il a surtout dit « on payera, ça ne vous coûtera rien ». Donc les chefs d'entreprise dans tous les domaines ont préféré mettre tout le monde au chômage partiel plutôt d'assumer la responsabilité. C'est le cas, par exemple, dans le bâtiment, eh bien, tout le monde a fermé. Et donc, si vous voulez, c'est cela qui crée la non-activité de notre secteur. Et en plus, dans certaines entreprises où les gens sont restés ouverts, ils ont fermé les salles de pause où les gens prenaient des cafés, des boissons et des snacks sur nos appareils, afin d'éviter le contact, alors que nous assurons la désinfection de tous nos claviers à chaque passage. Pour vous donner un exemple, nous continuons nos exploitations et nous sommes les bienvenus en milieu sanitaire et en milieu hospitalier.
Actuellement.
Oui. Le problème, si vous voulez, c'est que beaucoup d'entreprises ont fermé alors qu'elles auraient dû continuer leur activité. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le gouvernement qui les appelle à retravailler. Mais c'est la contradiction, si vous voulez, de ce que l'on nous dit. On nous dit, restez chez vous, n'ayez pas plus de 5 contacts, sauf si vous allez travailler et que votre travail n'est pas possible en télétravail. Comme 70% de notre activité est en entreprise et qu'on a dit aux gens d'aller télétravailler, les gens qui télétravaillent boivent le café à la maison et non pas en entreprise. Rien que ça, déjà, nous fait perdre de l'activité.
Autre petit souci également, celui de la filière de la Fédération de la distribution automatique qui appelle les autorités publiques à prendre en compte les demandes d'activité partielle dont certaines sont encore refusées par l'EDIRECT, c'est ça?
Alors, au-delà du refus, le problème, il faudrait quand même, on nous a parlé des masques qui arrivaient chez les médecins puis qui n'arrivaient pas. Et puis, au niveau du chômage partiel, c'est la même chose. On a dans nos codes, c'est-à-dire que vous créez un compte, comme vous créez un compte sur un site marchand. En général, le site marchand vous envoie dans les 2 minutes ou au maximum dans la demi-heure les codes pour pouvoir activer votre compte. Eh bien, c'est la même chose pour le chômage partiel. Mis à part le bâtiment qui a l'habitude de faire du chômage partiel par rapport aux intempéries, nous, on n'a pas l'habitude. Donc, il a fallu créer un compte. Ce compte, je l'ai créé il y a 10 jours. J'ai toujours pas mes codes. Et quand j'ai pas mes codes, je peux pas faire ma déclaration de chômage partiel. Et ça commence à bien faire. Pour vous donner un exemple concret, mon expert comptable qui en a fait 300 demandes, il a reçu 3 codes sur 300 demandes. Donc, il y a un bug informatique. Quand est-ce qu'on va avoir les codes? Quand est-ce qu'on aura la réponse pour savoir si notre dossier est accepté? Et si le gouvernement paye aussi vite qu'il nous donne les codes, n'oubliez pas qu'il va falloir qu'on avance la trésorerie. Ce ne sera peut-être pas de problème pour le mois de mars, mais pour le mois d'avril, ça va poser des problèmes.
C'était Pierre Albrieux, président de la Fédération nationale des ventes et services automatiques, NAFSA, dans le cadre des demandes d'activité partielle dont certaines sont encore refusées par les directs. Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Calade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Calade.